Il va commencer par quelque chose qu'on a déjà lu cette année, puisque on l'a lu à Parshat Para dans les quatre lectures qu'on a faites juste avant Pessah. Et c'est une paracha qui commence, donc la paracha de Roukat commence par une paracha, par un texte qui décrit une procédure de purification par rapport à la plus grande touma qui soit. Il y a, disons, en gros, trois sortes de toumot. Il y a la toumat metz, qui est une touma qui vient pour quelqu'un qui a été en contact avec un mort. Mais la notion de contact, elle est un peu étendue, c'est-à-dire ou bien on a un contact réel, ou bien on a transporté le mort sans l'avoir touché, par exemple sur un lit, sur un brancard, ou bien on s'est trouvé sous le même toit, sur la même choupa que un cadavre, qu'un mort. Alors le toit en question, ça peut être un toit de feuillage, ça peut être le feuillage d'un arbre, ça peut être un toit ordinaire, etc. Mais ça peut même être soi-même. On peut soi-même être à la fois le toit et celui qui est dessous le toit. Ça peut être aussi une main qu'on a mise au-dessus d'une tombe, etc. Tout ça rend impur, pas de la même manière exactement, mais ça rend impur. Et ensuite, il y a des toumot qui sont des impuretés qui sont liées à des phénomènes physiques, à des évolutions normales, classiques, courantes du corps. Et il y a aussi des. Bien entendu, il y a des impuretés, des toumot qui sont la résultante de contacts qu'on a avec une charogne éventuellement, ou avec un lézard mort, ou des choses comme ça. Et puis, il y a des impuretés qui sont même liées à des événements particuliers. Il y a une forme d'impureté, par exemple, qui est attaché au moment de la naissance, c'est-à-dire qu'une femme qui donne naissance, ou c'est un moment tout à fait élevé, etc. Et néanmoins, il y a un état d'impureté, il y a des états de... Bon, ça fait partie des circonstances particulières, effectivement, où on peut se trouver dans un état de l'impureté, c'est pas être dans un état d'impureté n'est pas du tout obligatoirement la conséquence d'une mauvaise conduite. Ça peut être le cas, par exemple, il y a une impureté comme Tsaraat, comme cette fameuse lèpre, on dit en français, dont on dit que certaines formes de lèpre sont la résultante du lashon hara. Mais bon, c'est voilà. Donc c'est une procédure, on va voir, c'est une procédure étrange, disons en gros incompréhensible. Et dans cette paracha, il y a aussi quelque chose qui va être très important. Il y a la mort de Myriam. Myriam, la sœur de Moshe et d'Aaron, va La mort va être rapportée dans cette paracha. Et il va se passer quelque chose de assez incroyable en vérité. C'est que les Bnei Israël ne vont pas pleurer Myriam. C'est-à-dire, la Torah, elle rapporte ils vont pleurer à la mort d'Aaron. Ils vont aussi pleurer un peu à la mort de Moshe, pas autant que chez Aaron. Mais sur Myriam, il n'y a rien. Et certains disent que, en fait, il va y avoir des conséquences très, très importantes à ce manque de hespèdes, ce manque d'éloges funèbres, ce manque de pleurs. Quand on pense à tout ce que Myriam a apporté au clan d'Israël, en fait, elle est quand même pratiquement à la source, si on peut parler comme ça, de la naissance de Moshe Rabbeinu, excusez du peu. Et ensuite, elle a surveillé, elle a aidé Moshe Rabbeinu à exister, quoi. Et grâce à... Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël, quand ils sont dans cette parasha Troukat, elle concerne les Bnei Israël quand ils sont au milieu du désert. Ils sont dans le désert. Et quand les Bnei Israël sont dans le désert, ils vivent dans une bulle. C'est une bulle qui est faite d'abord par les fameuses nuées qui les entourent, par en haut, par en au côté, devant, derrière, etc. C'est une bulle qui fait que rien ne s'use et le terrain est aplani, etc. Bref, conditions tout à fait artificielles et exceptionnelles. Et ils sont dans cette bulle et ils mangent de la nourriture céleste, en fait. Une nourriture qui vient du ciel, que ce soit à la manne, que ce soit après l'écaille, etc. Tout ça, ça vient du ciel. Et ensuite, y a donc le. Et ensuite, ils ont de l'eau. Et justement, l'eau, ils l'ont. À cause de, enfin, ou grâce à ce qu'on appelle le puits de Myriam, vers Myriam. Le puits de Myriam, c'est un rocher mobile, qui accompagne les Bnei Israël et qui donne de l'eau. Alors, Chazal disent que ces trois choses, elles sont dues à Moshe, Aaron et Myriam. Et donc, à la mort de Myriam, ben, il n'y a plus d'eau. Le rocher en question, le Be'er Myriam, ben, ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu le texte qui le dise explicitement, mais on pourrait se dire que si les Bnei Israël avaient exprimé la reconnaissance qu'ils doivent, en fait, qu'ils devaient à Myriam, peut-être que, quelque part, le mérite de Myriam aurait été recherché, en quelque sorte, de cette manière-là par les Bnei Israël, et peut-être que le puits de Myriam aurait continué de fonctionner. En tout cas, là, il n'a pas fonctionné. Et il n'y avait pas d'eau, plus d'eau. Et le rocher en question, comme il était au chômage, eh bien, il est redevenu un rocher non mobile. Il est allé se remettre parmi les rochers. Et quand comme il n'y avait pas d'eau, et bon, alors évidemment, les Bnei Israël ont commencé à protester. Ils se sont attroupés contre Moshe et Aaron. Ils les ont accusés de vraiment façon très, très, très mauvaise. On a même l'impression que Moshe et Aaron ont dû quasiment se réfugier dans l'Ohel Moed. Donc, ça a entraîné une manifestation de la nu d'une nuée qui montrait la présence d'Hachem. Donc, ça a arrêté les frais, quoi. Et Moshe a reçu l'ordre d'Hachem de produire de l'eau. Hachem lui a dit comment il devait procéder, et en particulier, il lui a dit par le rocher, et il va donner de l'eau. Il va y avoir un, je sais pas, un accident. Premièrement, Moshe a fait ce qu'Hachem lui a dit, on le verra dans le détail. Mais tout à coup, il s'est trompé de rocher. Comme le rocher n'était bon. Et au moment où il allait commencer à parler au rocher, finalement, il s'est mis en colère contre l'Ebné Israël. En colère parce que l'Ebné Israël n'arrête pas de tout de suite de dire du mal de la sortie d'Égypte, du mal de Eretz Israël, enfin, du pays où on les amène, de la situation dans laquelle ils se trouvent, et tout ça, c'est de la faute de Moshe, etc. Et Moshe, bon, c'est une erreur, Moshe s'est mis en colère. Et en colère, est-ce que c'est la colère qui a fait qu'il s'est trompé de rocher? Il a parlé à un rocher qui, rocher n'était pas au courant et il n'a pas donné d'eau. Alors, Moshe, qui avait, sur l'ordre d'Hachem, son bâton dans la main, il a frappé le rocher. Et je pense que tous les rochers, quand ils sont frappés par le bâton de Moshe, ils donnent de l'eau. Alors, il a donné même beaucoup d'eau. Et on a abreuvé les Bnei Israël et leurs troupeaux, puisque c'est toujours ce qu'ils demandaient. Et quand tu arrives à la fin de cette partie, tu as l'impression, OK, d'accord, le problème est réglé. Mais il y a un paragraphe juste après où Hachem dit, alors on remarquera, je vous dis déjà, que Hachem va parler à Moshe et à Aaron, et le texte dit, Vayomer Hachem. C'est-à-dire, Hachem leur parle, et Vayomer, c'est une parole douce. Mais dans cette parole douce, il leur en envoie, il leur dit, Yahan lo emantem bi le'akdisheni, parce que vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël, sous-entendu en parlant au rocher, mais que vous avez frappé le rocher, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Tout ça, c'est pas dit avec un dibour, c'est dit avec une amira. Énorme, quoi. Énorme de chez énorme. Mais si on regarde les choses, donc cette décision que Moshe et Aaron ne vont pas entrer en Eretz Israël, elle est causée par ce problème de l'eau. Mais le problème de l'eau, il est la conséquence de la mort de Myriam, ou plus précisément, probablement, du fait qu'on n'a pas pleuré ni fait de hespet sur Myriam. Donc cette mort de Myriam, elle entraîne ce bouleversement qui est que ce n'est ni Moshe ni Aaron qui vont entrer en Eretz Israël avec les Bnei Israël. La vérité, c'est que mon cher Rabbeinu sait. Depuis le commencement, il sait qu'il n'entrera pas en Eretz Israël. Lorsque Hachem a dit à Moshe Rabbeinu qu'il devait aller délivrer les Bnei Israël, au tout début de la carrière de Moshe Rabbeinu, au buisson ardent, là-bas, tu l'as parlé pour la première fois, et que Moshe Rabbeinu a dit non, pour de très excellentes raisons dont on a déjà parlé plusieurs fois, Hachem l'a puni et lui a dit: en punition, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Donc, Moshe Rabbeinu le sait depuis le début. Seulement, il a pensé que, de même qu'Hachem a pardonné au Bnei Israël plusieurs fois dans toute la trajectoire, là, parce qu'on est à la mort de Myriam, on est là dans l'année 40. Et c'est l'année dans laquelle Aaron va mourir et mon cher Abénou aussi. Donc, mon cher Abénou a pensé que Hachem va lui pardonner à lui aussi. Il n'en est rien, il ne lui a pas pardonné. Maintenant, les choses sont toujours beaucoup plus complexes. C'est que, en réalité, il y a une autre raison pour laquelle Moshe n'est pas entré en Eretz Israël. C'est la suivante. Dans Echa, dans la Megillat Echa, on rapporte que les Bnei Israël, ils ont tué Cohen ve Navi. Ils ont tué le Cohen Gadol. Et ils ont tué le prophète Yeshaya, ils ont tué. Tout ça, c'est au moment de la destruction du premier Beth Amikdash. Il faut bien comprendre que un clan d'Israël qui n'a plus de Kohen Gadol, qu'on tue, quoi. C'est pas qu'il est mort et il faut le remplacer. On l'a tué. Là, Israël l'a tué et il n'a plus de prophète. Enfin, un des grands prophètes. Il y a d'autres prophètes à ce moment-là aussi, mais ils ont tué le prophète. Ça veut dire tuer le prophète, c'est tuer la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas. On ne veut pas la parole d'Hachem. Et tuer le Kohen Gadol, c'est dire qu'on a. On n'a pas envie de faire une avoda, la avoda. Et... Donc un clan d'Israël qui, un clan d'Israël sans avoda et sans limud la Torah, il a quasiment aucune raison d'être. Et par conséquent, les Bnei Israël, en ayant fait cela, ils méritent la mort en fait. Le clan d'Israël mérite de disparaître. Mais là-bas aussi, dans le même texte, là-bas, on parle de ce que, donc, la colère d'Hachem, qui normalement aurait dû tomber sur le clan d'Israël et le détruire, cette colère d'Hachem, elle est tombée à la Hitsim vers la Avanim. Elle est tombée sur les bois et sur les pierres. C'est-à-dire sur le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire le clan d'Israël, Akadosh Baroukh a détruit le Beth Amikdash. En d'autres termes, Akadosh Baroukh a dit, donc vous ne me voulez pas parmi vous. Alors, détruis la maison qui est censée représenter ma présence parmi vous. Et donc, la destructibilité du Beth Amikdash était nécessaire. Si le Beth Amikdash n'est pas destructible, alors il ne peut pas servir de. Il ne peut pas servir de. Hein? De paratonnerre pour le clan d'Israël. Alors il y a deux personnages dont les actes sont plus lourds que ceux des autres. Deux personnages qui, quand ils construisent quelque chose, la chose n'est pas destructible. C'est Moshe Rabbeinu et David HaMelech. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est ni Moshe ni David qui construisent le Beth Amikdash. Parce qu'il doit être destructible. Sur David HaMelech, on donne d'autres raisons, sur Moshe Rabbeinu, d'autres raisons, mais si Moshe Rabbeinu était entré en Eretz Israël, on aurait eu tout de suite le Beth Amikdash et il aurait été indestructible. Et comme les Bnei Israël, même avec Moshe Rabbeinu, ils font des bêtises, ils peuvent même arriver à une situation où ils méritent la mort, comme le veau d'or, etc. Ou là, de nouveau, Hachem dit, laisse-moi Je vais construire avec toi un nouveau peuple, etc. Alors, il y a d'autres raisons, mais une des raisons, c'est ça. Une des raisons pour lesquelles, donc, mon cher Abbé, nous n'entrons pas en Eretz Israël. Il y a d'autres idées, il y a des idées que mon cher Abbé, nous, c'est le, on va dire, le spécialiste de la sortie de l'exil, donc, quand les Bnei Israël, à la fin de l'histoire, pour le reste du monde, va venir à Yerushalayim, alors il faut qu'il soit guidé par Moshe Rabbeinu, et donc il faut que Moshe Rabbeinu soit en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, pour avec tout le monde venir en Eretz Israël au moment ad hoc. C'est tout un sujet. Et donc il y a. Il y a d'autres choses très importantes dans cette paracha, mais on va parler de ces deux choses plus particulièrement. Alors, je reviens sur le début de la paracha, avec le Gour Arié, avec le Maharal de Prague. Le Maharal est donc un commentaire, un sur-commentaire en général de Rashi. Il y a un premier Rashi. Le fils à Satan, vous mot à Olam, mon inet Israël, l'omar, ma mitzvah azot, ou ma tam yeshba. Le fichach, katav ba, chuka. Zerail mfanai, en lecha rechut le aher. Tu n'as pas le droit de réfléchir, d'essayer de, obligatoirement de critiquer le fait que tu ne le comprennes pas. Alors le Maharal dit, mais dit vrai Rabotenu, il y a une Gemara dans Yuma, que lui l'explique de la manière suivante. La question, elle est, c'est quoi ce binôme-là, Chukat HaTorah? Là-bas, la Gemara, elle dit, on n'aurait pas dû écrire Chukat HaTorah. Bien que le mot Chukat, on le trouve. Normalement, la question c'était un choc, c'est a priori considéré, ça parle d'une mitzvah dont on ne comprend pas le sens, on ne connaît pas le sens. Mais que le texte il aurait dû dire Zot chukata para, et pas chukata Torah. Je parle des lois de la para aduma, pas des lois de Torah. Alors, il dit, on trouve des choses comme Chukata Pesach, ou bien Chukotai, Torotai, à beaucoup d'endroits. Mais chaque fois, Chuka va toujours avec quelque chose de particulier. Chuka va avec Pesach, Chuka va avec Khatat, Chuka de quelque chose. Mais Chukata Torah, ça marche pas a priori. Ça va sur une mitzvah particulière, hein, sur la Torah. Et alors il dit, Ve'atamu, la raison, c'est que, à mitzvot, bon, ça c'est important, les mitzvot, quand on les fait, Ein tsaricha adam la date tam à mitzvah klal. Quand je fais une mitzvah, je n'ai pas besoin, pour m'acquitter de la mitzvah, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle veut, cette mitzvah, qu'elle représente, etc. C'est pas qu'il faut pas le savoir, mais ça n'a rien à voir avec l'obligation que j'ai de faire la mitzvah. Et la mitzvah, elle est complètement faite dès lors que j'ai fait les gestes qu'il fallait faire. Si je mets mes tefillin, même si je sais pas ce que je suis en train de faire, j'ai mis les tefillin, ils sont faits. La mitzvah est faite. Assia. Oui, on n'a pas besoin de plus. Alors, la cavana peut venir en plus, mais vraiment, si ça vient, c'est un an en plus. Mais ça n'a rien à voir avec l'accomplissement de la mitzvah. On doit s'acquitter d'une mitzvah. S'acquitter de la mitzvah, c'est sonner du shofar. Bien sûr que il y a des tas de choses à dire sur le shofar, mais ça n'a rien à voir. La Maharetz qui connaît rien du tout, mais qui sonne du shofar, qui entend la sonnerie du shofar, il est autant yotzé de la mitzvah que le Talmid Chacham, Mekoubal, tout ce que vous voulez, qui connaît toutes les sodotes du shofar. Ein tola mitzvah rak be'asiyata bilvat. La mitzvah, la mitzvah, elle dépend seulement de l'action. Il faut la faire. Ein bo shum limud. Rak asiya grida. Il y a seulement une asiya quand on l'a fait. Afalgab de loyada shum davar. Même s'il connaît rien. La mitzvah, elle est bien faite. Aval ba Torah, lo shayach lashon chuka. Mais dans la Torah, ça n'a pas de sens. On ne peut pas utiliser le mot chuka dans ce sens-là. Ki ba Torah shayach limud. Dans la Torah, Torah, c'est du limud. C'est pas. On n'accomplit pas la mitzvah de limud Torah en ouvrant le rouleau de la Torah ou en ouvrant des sfarim. Il faut étudier. C'est pour ça qu'il faut répondre ce que Rashi répond. Le fiché à Satan ve umota olam. Le Satan et le umota olam, ils disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est complètement, c'est aussi de la magie, comme nous, quoi, non, etc. Et vous connaissez pas la raison, etc. Donc pourquoi la Torah a appliqué le mot chouka à la Torah, c'est pour dire she'av Torah yé chouka. Dans la Torah, il va y avoir aussi une notion de chouka, c'est-à-dire al ya'arer achara Torah shel para aduma. C'est-à-dire ne réfléchis pas, ne te creuse pas obligatoirement la tête sur la signification de la para aduma. Par exemple, dans Parchat Matot, un peu plus bas, c'est écrit Zot Chukat Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe. Et là-bas, on parle des Kélim de Midian. Quand les Bnei Israël ont fait la guerre contre Midian et ils ont récupéré toutes sortes de Kélim, il y avait des problèmes de cacheroute. Comment on cachérise pour pouvoir utiliser les marmites, tout ce qu'ils ont laissé. Et là-bas, Mipnei She'el Hazar Loba Lelamed Torah à l'Israël, là-bas c'est Elazar, le fils d'Aaron, il vient pas à ce moment-là enseigner la Torah. Il vient le Horot, à la Maaseh, Shaya le Fishar. Il vient dire exactement comment on doit se comporter. Il vient dire le Shulchan Aruch, si vous voulez. Ipne, Shaya le Inyan Hora'a, c'était pour dire la Halacha. Et dans la Hora'a, Ensa'ir Tam. On n'est pas obligé d'expliquer le Tam pour la Hora'a. La Hora'a, c'est comme ça. C'est voilà, la Hora'a. Je me souviens d'avoir entendu une fois à Simcha, il y avait là-bas le Rav Padva, le père de l'actuel Rav, qui était un très grand possèque. Il y a un mitracham qui est venu et qui lui a posé une question d'Alaha. Et Rapadva, il a répondu, Moutar, permis. Et alors, l'avraire, en fait, il a dit, mais il a commencé à expliquer, mais c'est. Il a dit, tu veux l'Erlem, tu veux étudier? Viens demain matin. On va discuter. Là, tu m'as posé une question, c'est Mouta. Tais-toi. Tu vas me poser une question, c'est moutarde. Je t'explique pas. C'est pas que je veux pas t'expliquer, mais c'est une autre branche. Viens demain matin, étudie avec moi. J'avais jamais entendu cette réponse, mais bon, c'était alors pas de bas. Donc, ici, Zotrokata Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, qui est dit dans la paracha de Matot, ça concerne les Kélim de Midian. C'est pour ça que c'est écrit ici, Chukata Torah, pour dire, Kach Yasu. C'est comme ça qu'il faut faire. Ven Tsarich Tam, et on n'a pas besoin de Tam pour ça. Pas besoin de raison, d'explication. Ou bien aussi, on peut dire que là-bas, dans l'histoire avec Elazar, quand c'est Elazar qui parle, alors on peut parler de la Chukra. Chez Enadam Tsarich la date à Torah Betam Shela. Donc c'est pour ça que c'est marqué Chukat à Torah. C'est-à-dire le côté tranchant, tranché, sans explication. Mais quand c'est Hachem qui parle, alors on ne peut pas dire Chukat à Torah. Parce que quand Hachem parle, c'est pour qu'on soit Doresh. C'est pour qu'on explique. Alors en vérité, il dit, dans le Midrash, il y a un Midrash dans le Midrash Rabbah sur Bamidbar ici, qui dit que le Moshe Rabbeinu, alav ha-shalom, aya kadosh baruch hu megale tam para aduma. Le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu, la raison de la para aduma, il l'a expliqué à Moshe Rabbeinu. Non, alors s'il y a une raison, il l'a expliqué à Moshe Rabbeinu, alors c'est plus Kruka. Il dit, Mikol Makom, puisque Shelo Natam Tamze le Chol Israël, il n'a pas donné cette raison, cet enseignement, il n'a pas donné à tout Israël. Donc, la Torah donnée au clan d'Israël, normalement, la Torah elle a été donnée au clan d'Israël. Et dans ce qui lui a été donné, il n'y a pas, Hachem n'a pas dévoilé pour le clan d'Israël cette raison-là. Torah Tzivalanu Moshe, bien sûr, elle a été donnée au clan d'Israël, la Torah. On dit, Vezot à Torah, Asher Sam Lifnei Bnei Israël. Donc on peut parler de Chukat HaTorah. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Si on voit quelque chose, je crois, dont on a déjà un peu parlé, c'est que Hachem a donné il a dévoilé des choses à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu les répercute au Bnei Israël. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, pour qu'ils disent des choses au Bnei Israël. Mais il y a des choses qu'il a dévoilées à Moshe Rabbeinu qu'il ne nous a pas, qui, pas pour que, pour que, pour que Moshe le sache, mais ce n'est pas des choses qu'il doit redire au clan d'Israël. Il y a des choses que Moshe sait, mais qui ne sont pas pour nous. C'est-à-dire que bien que Moshe Rabbeinu représente le clan d'Israël, et qu'a priori, la Torah qui lui est donnée, elle est pour le clan d'Israël, mais il y a aussi des choses, comme celle-là par exemple, qui ont été données à Moshe Rabbeinu, mais qui ne nous ont pas été données à nous, c'est-à-dire que Moshe n'avait pas la permission ni l'ordre de les retransmettre. Alors le Maharal dit, mais on a encore un peu une autre question. C'est que il est dit dans Rashi là que c'est Gzerahim Milfanaï. C'est un décret devant moi. C'est un décret que moi, j'ai pris, dit Hachem. Mais la question, c'est que toutes les mitzvot sont des décrets divins. Et ne dis pas que ici, on veut dire que c'est une gzéra au sens, toi, tu ne. Une spécificité, c'est que. On ne connaît pas le tam. Dans d'autres mitzvot, on connaît le tam, on connaît la raison. Ici, on ne connaît pas la raison. Donc ne dis pas ça, dit Maharal, parce que le Rambam dans Moreh Nevuchim, il dit tout à fait clairement que ce n'est pas ça la raison. Et alors, c'est quoi le mot gzera, là? En quoi est-ce que cette mitzvah-là est plus une gzera que les autres? C'est que. Ça vient dire, Gzera, ça veut dire que c'est pas du Rachamim, c'est du Din. Gzera, c'est un Din, c'est-à-dire, c'est du Din, et c'est pas, il n'y a pas de dimension de Rachamim dans la mitzvah. Bon, évidemment, vous entendez bien que ça fait un peu référence à la mitzvah de chasser la mère pour pouvoir prendre les petits là-bas. On pourrait penser que c'est par rachamim pour les petits ou pour la mère qu'on ne la voit pas, qu'on prend les enfants, etc. La Gemara, elle dit, tu n'as pas le droit de dire ça. Et le Rambam dit, ça n'est vrai pour aucune mitzvah. Les mitzvot ne sont pas du rachamim. Et il dit que même la tzedaka et le maaser, dont on pourrait penser que c'est une mitzvah qui est faite pour que le pauvre, pour que le lévi reçoive. Le Rambam ne dit pas du tout. Même cette mitzvah-là, elle est faite pour que celui qui pratique la tzedaka, celui qui pratique le maaser, c'est une éducation de celui qui la pratique. C'est pour qu'on s'habitue à donner de la tzedaka. On s'habitue à élever le maaser. C'est pas du tout pour que l'autre l'ait. C'est pour que moi, je me force. Contre une certaine inertie ou contre qu'est-ce que j'ai ou de vouloir garder pour soi, etc. C'est l'éducation, auto-éducation par le biais des mitzvot. Comme ça, c'est comme ça que le Rambam présente les choses. Alors, en plus, la justice, c'est ça. Ouais, il y a le mot tzedaka dedans. Mais Rambam va dire, c'est pour que tu t'habitues à pratiquer la justice. Alors en fait, il y a un passouk dans Yeshaya où on voit le contraire, c'est-à-dire on pourrait penser que c'est le contraire, parce que le passouk dit, Ve'el ze habit el ani unche. Et Hachem dit, moi je vais regarder. Le pauvre et le handicapé, celui qui souffre, le rerouach même. Donc ça veut dire que, bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ozer Dalim, comme on dit. Il aide les pauvres, bien sûr. Mais ça c'est la démarche d'Hachem. Mais la mitzvah, il ne nous a pas ordonné, nous, de travailler le rachamim. Nous, on doit travailler la justice. Et on doit travailler les midot, pas le rachamim. En tout cas, pas par le biais des mitzvot. Peut-être qu'il faut travailler sur soi, s'habituer à certains rachamim. En tout cas, les mitzvot, elles n'ont rien à voir avec ça, dit Rambam. Peut-être les autres pensent autrement, hein. Mais le Maharal dit que Akadosh Baruch Hu lui-même, Osem et rachamim, mais pour à l'homme, il donne des ordres pour que l'homme aille dans les voies d'Hachem. Alors, bien entendu, il y a une raison à toutes les mitzvot. Bien entendu, mais ce n'est pas un rachamim. Et la raison pour laquelle je fais la mitzvah, ça n'est pas parce que je la comprends. Le Maharal dit, le Ramban, il va un peu comme moi, mais pas complètement. Ramban, oui. Parce que le Ramban, il dit que ces mitzvot, au départ, elles sont pour les pauvres, etc. Après, mais le départ, tandis que lui, il dit pas du tout. Oui. Le Hemet le Yaakov de Rav Kamenetsky, qui était un des Gdolim américains de la génération précédente, il y a deux générations, il pose la question suivante. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé, que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara. Il s'appelle Mara, qui veut dire amer, parce que les eaux étaient amères à cet endroit-là. Évidemment, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont protesté, etc. Et Hachem a montré à Moshe Rabbeinu un bois qui adoucit l'eau. Là, ils ont eu de l'eau à boire. Et c'est marqué que Cham, à cet endroit-là, à Mara, HaKadosh Baruch Hu leur a donné 10 mitzvot. On est bien avant Matan Torah. Pas bien avant. Étant donné que Matan Torah, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte, alors ça fait pas beaucoup. Il n'y a pas de bien avant, quoi. C'est avant. Amaha, il leur a donné Shabbat, il leur a donné Kibbout Avahem, il leur a donné les Dinim, et il leur a aussi donné Parah Aduma. Alors le Maître Yaakov, il dit, on comprend bien Kibbout Avahem, Shabbat, Dinim, mais une partie des mitzvot, je les ai donnés pour que les Bnei Israël s'habituent un peu aux mitzvot. Mais Parah Aduma, on ne peut pas dire que c'est pour s'habituer. Parah Aduma, ce n'est pas pensable si on n'a pas le Beth Amikdash. Il y a toutes sortes de conditions pour Parah Aduma, donc on ne peut pas du tout s'entraîner à Parah Aduma. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pourtant, visiblement, à Mara, c'était un camp d'entraînement pour se préparer à Matan Torah. Alors, à quoi sert Parah Aduma? Parah Aduma, ça sert à s'entraîner à accepter la Torah. En tant que, non pas comme livre de mitzvot seulement, mais comme qui est une Kabbalat HaTorah pour le Limoud. Kabbalah, accepter d'étudier. Sur la Paraduma, ils ont seulement étudié, on ne pouvait rien faire d'autre. Donc il faut s'habituer aussi que quand on a accepté la Torah, c'est pas on a accepté des mitzvot seulement. On a accepté aussi les mitzvot. Mais on a accepté autre chose. On a accepté la Torah, et d'avoir accepté la Torah, ça nous change complètement. Ça change notre statut. Pas seulement qu'on a maintenant 613 commandements particuliers, mais ça change notre façon d'être au monde, en quelque sorte. Et c'est en ça que c'est une xéra. Bon, ça veut dire que il y a une dimension de xéra. Il faut apprendre à. Voilà, c'est un décret que il y a une Kabbalah pour que vous acceptiez la Torah comme quelque chose qui doit être étudié. C'est une étude sans que ce soit relié avec la pratique des mitzvot. Ça veut dire, il y a ce fameux chilouk dans le Limud HaTorah, dans la mitzvah de Talmud Torah, Il y a l'étude qui est fonctionnelle. Et si tu veux faire des mitzvot, il faudrait savoir comment on les fait. Donc, étudier comment on fait les mitzvot, bon, c'est fondamental, mais ça, les femmes aussi, elles sont astreintes à ça. Les femmes qui n'ont pas la mitzvah de Talmud Torah, mais elles ont néanmoins l'obligation de savoir comment on fait les mitzvot. Maintenant, comment elles y arrivent? Est-ce que elles y arrivent, cette connaissance, elles l'ont par mimétisme ou par copie de ce que leurs mères ont fait, etc. Ou est-ce qu'elles peuvent l'avoir en lisant dans des livres comment il faut faire? Tout ça, mais ça s'appelle pas vraiment, c'est pas ça qu'on appelle Talmud Torah. Les hommes, ils n'ont pas, les hommes, ils ont ça évidemment aussi, mais quand tu fais que ça, d'une certaine manière, tu n'as pas encore vraiment fait de la Torah, quoi. La Torah elle-même, elle doit être étudiée. L'étude, c'est-à-dire réfléchir sur la Torah en elle-même, sur le texte de la Torah, y compris sur le texte des mitzvot éventuellement, mais pas pour savoir comment faire, mais peut-être justement sur savoir ce que ça représente. Oui, ça c'est peut-être vraiment l'étude de la Torah. Parce que c'est pas savoir comment faire. Comment faire, c'est normal. Je ne peux pas dire à quelqu'un, fais des mitzvot et sans lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut lui dire que la mitzvah, elle se fait de cette manière-là et pas d'une autre manière, etc. Donc, on va maintenant. On va parler de la faute de Moshe, qui s'appelle Meriva, c'est-à-dire les eaux de la discorde, de la dispute. Et on va voir ça avec le Meshech Chokhmah. Ne vais pas tout voir, mais il y a quelque chose d'important. Alors, ça va sur le passouk Yud Alef du Perek Kaf, donc 20-11. Vayetsu Maim Rabim, c'est quand Moshe Rabbeinu a frappé le rocher et le rocher a donné beaucoup d'eau et on a pu abreuver l'Ebné Israël et les troupeaux. Alors, le Meshech Chokhma, il ramène le Rav Yosef Albo. Le Rav Albo, c'est un Rav espagnol de l'époque de l'Inquisition. Je me suis laissé dire que à l'époque de l'Inquisition, les rabbins, pratiquement, ils ont tous accepté de se convertir. Il y en a même un qui est devenu archevêque de Burgos. Mais on ne peut pas être archevêque de Paris. Mais sauf deux. Un des deux, c'est Rabalbo, qui a écrit ensuite un sefer très important. Et dans ce sefer, lui, il développe une théorie selon laquelle il n'y a pas comme pour le Rambam 13 Ikarim, lui, il n'en a que 4. Bon, c'est pas ça l'essentiel de sa théorie, mais il écrit là-bas quelque chose de très intéressant. Il dit que la faute de Memriva, alors, la faute, on donne toutes sortes de raisons pour expliquer qu'était vraiment la faute. Mais Hachem lui-même, quand il reproche à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya'an lo emantem bi lehakdisheni. Vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël. Ça veut dire il y avait une possibilité de Kiddush Hashem que Moshe n'a pas faite. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu aurait dû parler au rocher, et ça aurait été un Kiddush Hashem de voir que la parole de Moshe sur l'ordre d'Hashem, elle domine le monde, qu'elle change le monde, et que le rocher va donner de l'eau, il va obéir. Et quand Moshe Rabbeinu a frappé le rocher et qu'il a donné de l'eau, c'est une régression parce que il y avait déjà eu un cas où les Bnei Israël avaient besoin d'eau et Moshe, sur l'ordre d'Hachem, avait frappé le rocher et le rocher avait donné de l'eau. Donc maintenant, on revient en arrière, quelque part, au lieu de faire un pas supplémentaire dans la direction en fait, en vérité, de l'importance et du rôle fondamental du Klal Israël, de la Torah du Klal Israël, de la parole d'Hachem quand elle est véhiculée par les hommes, par le Klal Israël, c'est-à-dire Sal Kiddush Hachem, Moshe Rabbeinu, il a raté ce Kiddush Hachem, d'après ce qu'Hachem lui dit. Alors, le Rav Albo, il dit, effectivement, il y avait un manque de Kiddush Hachem, et écoutez bien pourquoi. Ki ka'asher ra'a ki ha'am samel amay. Quand Moshe Rabbeinu a vu que le peuple avait soif, il avait besoin d'eau. Aya ra'ouï le ish kazé, un homme comme ça, un homme de la trempe de Moshe Rabbeinu, il aurait dû le kadesh shmo itbarach, sanctifier le nom d'Hachem, comment la sotte me'atzmo lo'otzi ma'im me'sela. Il aurait dû prendre l'initiative de faire sortir de l'eau du rocher. Moshe savait très bien que s'il frappe le rocher va donner de l'eau. Il n'aurait pas dû attendre qu'Hachem lui dise quoi que ce soit. D'après Albo, il aurait dû aller vers le rocher, frapper un rocher, leur donner de l'eau. Ben, qui dit que ça va marcher? Si moi je tape sur l'eau, bon d'accord, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais même Moshe, a priori, un rocher, c'est pas une source d'eau. Alors il dit, si, ça aurait marché, pourquoi? Hachem, il y a assez retson sadik, ve atzat avada v'yashlim. C'est un passouk qui dit que HaKadosh Baruch Hu, il fait la volonté du tzaddik et il complète, en fait, ce que ses serviteurs lui demandent. Ubeze kvar dibru hachamim. Les hachamim, ils ont déjà parlé de ça. Mais il dit, mais j'ai pas les livres avec moi. Si frère, mais... Ubemet raoui leitbonen. En vérité, il faut y réfléchir. Kilomatsan ou le Moshe, on ne trouve pas que Moshe, chez Yahseh, Davar, Veinyan, Blit, Sivui, Hashem, Kodem. Moshe ne fait pas des choses sans en avoir reçu l'ordre d'Hachem. Cholamoftim, tous les miracles qu'il a faits, que ce soit la manne, le slave, le Be'er, Kriyat Yamsouf, il a toujours attendu qu'Hachem donne l'ordre. Par contre, les autres prophètes, eux, ils ont fait de leur propre initiative. Et Hachem a suivi. Hachem a fait ce qu'ils ont mis en marche. Quand Yoshua a arrêté le soleil, Hachem ne lui avait pas dit d'arrêter le soleil. C'est lui qui a donné l'ordre au soleil de s'arrêter, et Hachem a fait en sorte que le soleil s'arrête. Eliaou Be'Har HaKarmel, Eliaou HaNavi, quand il a lancé ce défi au prophète du Baal, alors il avait dit on fait tous comme ça et on verra bien qui va répondre, quoi. Et si le Baal va répondre et si Hachem va répondre, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué un autel et il a mis des taureaux, etc., de la viande. Il a arrosé d'eau, etc. Et puis après, il a dit au prophète du Baal, alors d'abord invoquez, faites la même chose, et invoquez le Baal qui vous envoie le feu du ciel pour brûler le corban. Alors évidemment que les prêtres du Baal, ils avaient mis quelqu'un sous le misbar qui devait mettre le feu, évidemment, pour que. Mais seulement il y a un serpent qui a eu la bonne idée de piquer le bonhomme. L'homme, il est mort et il a. Alors Eliaou, il se moque d'eux, il dit, il faut peut-être crier plus fort, il dort, peut-être votre Dieu, etc. OK, mais après, alors bon, c'est la preuve qu'il. Alors maintenant, et toi? Alors, Midrash raconte que Hachem, qu'il a dit à Hachem, il dit, mais maintenant, alors Hachem, il dit quoi? Tu m'as pas demandé, rien demandé, là maintenant tu me mets au pied du mur. Hachem a dû faire un miracle, il a dû faire ce qu'Eliaou a dit. Et Shmuel là-bas, dans le Matar, etc. Hein. Il dit, le seul cas où Moshe a fait quelque chose sans que, enfin, oui, il a demandé quelque chose sans avoir reçu l'ordre d'Hachem, c'est Korach. Quand il a demandé que la terre s'ouvre et qu'il n'avait pas fini de parler que la terre s'est ouverte, là, il n'avait pas reçu l'ordre d'Hachem. Alors, il explique pourquoi il l'a fait pour Korach et pourquoi il l'a jamais fait ailleurs. On l'a dit comme ça. Un prophète parmi les prophètes, ces gens qui sont Be'aspaklaria She'ena Me'ira, les autres prophètes y voient, mais de façon pas aussi claire que Moshe. Moshe, il a une vision plus claire que la vision des autres prophètes. Les autres prophètes, c'est des gens qui, quand ils reçoivent la parole d'Hachem, ils tombent en syncope, ils font des mouvements dans tous les sens, etc. Ici, tout le monde voit clairement que c'est un homme et que ce n'est pas une divinité. Que même si effectivement il va produire quelque chose, il va produire. Là, on ne nous le dit pas, mais Eliaou HaKarmel, il parlait pas avec Hachem comme Moshe. Hein. Lui, il tombait en syncope et c'était un dialogue. Personne ne parlait PLP avec Moshe, avec Hachem, sauf Moshe. Donc, tout le monde voyait bien que ce n'était pas une divinité. On n'allait pas diviniser ni Eliaou HaKarmel, ni Shmuel, ni Yoshua, etc. On voyait que c'était les forces de prophétie qu'Hachem a mises dans des hommes. Chez Moshe, c'est différent. Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui parle, Moshe Rabbeinu, il est debout et il parle avec Hachem comme Hachem l'a dit, PLP Adaberbo. Il parle comme si il parlait avec quelqu'un, avec un collègue, quelque part. Si Moshe Rabbeinu avait fait tous ces miracles qu'il a fait, sans qu'il ait l'ordre d'Hachem, on aurait très bien pu le diviniser. Bon, il a un pouvoir fabuleux. Bon, il fait les makot, le kriyat yamsouf, etc. Bon, il y a un risque qu'on le divinise. Il maîtrise les forces de la nature, il peut les changer, etc. Donc, l'erreur était trop possible. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit de cet ordre-là, de miracle, sans en avoir reçu l'ordre, pour qu'on ne puisse pas le diviniser. Dans l'histoire de Korach, par exemple, là, comme les Bnei Israël se sont mis à dire du mal de Moshe, de l'accuser de népotisme, etc., à ce moment-là, il n'y avait aucun risque qu'on le prenne pour une divinité. C'était clair, puisqu'il le traitait même comme un vaurien, quoi, quelque part. Un type qui avait placé son frère et ses petits copains. Là, il s'est permis de faire quelque chose sans. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de risque de divinisation. Pas le diviniser. Mais autrement, il ne l'a jamais fait. C'est une explication du Meshech Chochma, comme ça qu'il explique le Ravalbo. Il dit, on peut aussi dire, sur les mêmes rivages, Shebet, Aya Matan Torah, quand il y a eu les Matan Torah, Nit'alu Israël, les Bnei Israël se sont élevés, Ve'ra'u et Hakolot, et ils ont vu les paroles, les cols, les bruits, Shayu Reuim, il voyait ce qu'on peut normalement percevoir par les oreilles seulement. Et comme Chazal disent dans, comme il comme on le dit dans Shir HaShirim, là-bas c'est marqué, Malach, Aya Motzi Adibur, Milifnei Kadosh Baruch Hu, al kol dibur vedibur, marziro al kol echad veechad mi Israël. Veomer lo, mekabel ata, alecha et adibur hazeh. Là-bas dans Shir HaShirim, dans le Midrash, Rabbah de Shir HaShirim, Chazal disent que quand Hachem parlait au Sinaï, il y avait un malheur qui prenait la parole d'Hachem et qui allait chez chacun des Juifs et la lui présentait et lui demandait, tu acceptes ça? Tu acceptes? Tu acceptes? Kach Digdukin, Kach Onshim, Kach Azarot, et le malheur, il lui disait, voilà, ça, c'est ce détail qu'il faut faire. Voilà ce qu'on risque si on ne le fait pas. Voilà l'avertissement, etc. Vine ratsa Hashem, sheken, bedibur el ha-sela, Akadosh Baruch Hu voulait que quand Moshe allait parler au rocher, yirou bnei Israël a dibur ha-eloki, que les bnei Israël voient, puisqu'ils sont au niveau de voir le dibur, il voit la parole divine, Asher Yotze Migrono Shel Moshe. qu'il voit que la parole divine sort de la bouche de Moshe. Sheshrina shruya betocho. Ça veut dire qu'il y a la présence divine en Moshe. Et c'est comme ça qu'il agit ça agit sur le rocher. Yelahemze le chizuk haemuna, me'en amamad anirbad. Asher ratza Hashem, sheye kodem kritut brit be'arvot Moav, ve'lachen tziva sheye gam Aharon. Donc Hashem voulait un moment spécial avec Aaron aussi, etc., pour enseigner au Bnei Israël que vous voyez bien que même le Sela, il obéit à la parole divine quand elle sort par Moshe. Plus forte raison, vous devez obéir. Les lois de la nature se plient à la parole d'Hachem quand elle sort par la bouche de Moshe. Et eux, ils ont mis Moshe Rabbeinu tellement en colère, etc., que bon, ça s'est pas fait. Alors, les Bnei Israël, en réalité, pour cela, ils devaient se préparer. Et la préparation, c'était une préparation au niveau de la vision, puisqu'ils devaient voir les Dibourim, voir les paroles. Ikatchu chush areot. Il fallait qu'ils sanctifient le sens, la vision, quoi. C'est ce que Hachem avait dit à Moshe, Vedibartem el haSela le'eineihem, devant leurs yeux. Ouais. Évidemment que c'est le'eineihem, puisque leur a dit, rassemble tout le monde et ce sera bien à leurs yeux, mais le'eineihem, c'est que ça doit leur rentrer dans les yeux pour qu'ils voient le dibour, en fait, et qu'ils y obéissent comme le Sela obéit. Aval Moshe Mikaaso el ha'am amar Shimuna Shimu Shimuna Amorim. Écoutez donc, il s'est adressé à leur ouïe et pas à leur vision, Moshe Rabbeinu. Donc il ne leur a pas dit préparez-vous pour la vision, quelque sorte. C'est pour ça que le dibour à Eloki n'a servi à rien. Il fallait, sur le rocher, bah, tout de même, ça ne marchait pas, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés. Moshe ne les a pas préparés à la vision. Et il dit, d'après moi, c'est relativement proche du pshat. Bon, ça c'est le. C'est très intéressant de le Halbo qui dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu aurait dû dans ce cas-là agir sa propre initiative et ne pas attendre que Moshe le lui ordonne. Bon, on va s'arrêter là.